Bonjour et merci pour l'introduction. Alors l'enquête est pas de 2003 mais de 2023 et je suis plus copilote du module 2 du POC. Parce que j'étais copilote mais je viens de l'abandonner pour le confier à d'autres personnes. Je vais vous présenter, vous faire une première restitution de l'enquête qui a été faite, une première restitution parce que le travail d'analyse des données est encore en cours et parce que j'ai envie d'être invité aux prochaines journées pour faire la restitution complète de cette enquête-là. Et l'autre chose que je vais vous préciser, c'est qu'aujourd'hui, c'est moi qui présente la restitution, mais en fait, c'est un travail collectif qui est réalisé par l'ensemble du groupe de travail droit d'auteur de Medici. Et je les remercie, je remercie mes collègues d'avoir participé non seulement à l'écriture de l'enquête, et à l'analyse des données. Donc mes collègues côté Medici et mes collègues du côté de Repair aussi, puisque c'est une enquête des deux réseaux. On va commencer par un bref rappel des activités du GT droit d'auteur de Medici. Ce GT a été créé en 2013 lors des quatrièmes journées du réseau et en 2017, la rédaction de modèles de contrat a commencé avec une juriste, Anne-Laure Stérin. Les modèles de contrat, les premiers qui ont été réalisés, ce sont les modèles de contrat pour un périodique, parution dans un périodique. Et 2 ans après, à l'époque, je n'étais pas dans le GT, bien sûr. Des recommandations pour les aspects juridiques relatifs à la création et la diffusion d'une revue scientifique ont été publiées sur HAL. On en est à la V2 de ces recommandations, toujours sur HAL, déposées en 2021. La publication des premiers modèles, donc les premiers modèles ont été écrits pendant 3 années environ, et la publication a lieu en 2020. Et en 2022, donc 2 ans après la publication des premiers modèles, on a lancé une enquête Medici Repair sur le cadre légal de l'édition fin 2022, en décembre. Et ça s'est clos en février. En 2023, il est prévu de publier les modèles de contrat pour les monographies. Vous êtes sous réserve de validation, puisque je vois Cécile qui fait signe. Les contrats sont en cours de relecture. Les activités du. J'ai coupé le micro. Les autres activités du GT qu'on va signaler sont bien entendu des échanges au fil de l'eau sur la liste, puisqu'on a des sollicitations au fur et à mesure de l'année sur des cas pratiques. Ici, vous avez la synthèse des réalisations. Ceux qui ont suivi les ateliers contrat hier ont une connaissance parfaite maintenant de ces modèles de contrat. Donc, vous avez 2 modèles de contrat pour une parution dans un périodique avec ou sans exclusivité. Un contrat d'édition pour une contribution dans un ouvrage collectif sans exclusivité et les autres modèles qui sont en cours de relecture ou de validation. L'enquête qui a été réalisée avait plusieurs raisons d'être. La première chose, c'est que nous voulions évaluer l'adaptation et la pratique des contrats qui avaient été diffusés à N plus 2 et aussi avoir un retour sur la manière d'adapter ces contrats pour comprendre si les modèles étaient facilement appréhendables, s'il y avait encore des choses à faire pour améliorer leur diffusion au sein de la communauté des éditeurs et éditrices et faciliter l'adaptation. C'était aussi un moyen d'identifier les prochains travaux du GT contrat, du GT droit d'auteur. Et on avait une bonne possibilité de mutualiser les initiatives entre les réseaux Repair et Medici, mais aussi avec le réseau Mirabel, puisque cette enquête avait pour objectif de recueillir un certain nombre d'informations pour le projet Mirabel 2022 financé par le FNSO. Je vais vous rappeler très rapidement la structure du formulaire, mais comme on a eu beaucoup de réponses, vous connaissez tous et toutes la structure du formulaire. Donc on avait 3 parties, une partie sur les informations générales des abonnés de la liste Medici. Une partie 2 plus spécifiquement sur les modèles de contrat Medici et une partie 3 qui était réservée aux membres du réseau Roperche. Je ne la détaillerai pas aujourd'hui parce qu'on fera une restitution plus tard, spécifiquement pour cette partie-là de l'enquête. On va quand même signaler quelques écueils que nous avons eus. On a utilisé un formulaire Lime Survey qui était anonyme. C'était un choix de notre part de ne recueillir aucune donnée et de ne pas identifier les collègues qui répondaient, ni même les équipes qui pratiquent ou pas les contrats et quelles formes de contrats. Donc tout a été anonyme. On n'a recueilli aucune donnée. On a diffusé l'enquête pendant à peu près 3 mois. On a eu en revanche un certain nombre d'écueils techniques puisque on a une part importante de formulaires non complets et on a eu un retour de plusieurs collègues qui nous ont dit que de temps en temps, les réponses étaient assez instables. Enfin, ça pouvait quitter avant d'avoir fini le formulaire. Donc, ça nous pose un certain nombre de problèmes dans l'analyse des données et je vais vous en parler maintenant. On a obtenu 207 réponses en tout et seulement 94 formulaires complets. La chose qu'on peut voir, c'est que quelques réponses semblent être émises par deux personnes d'un même service. Et donc là, il va falloir qu'on arrive à trancher pour retirer quelques données et objectiver notre analyse. Quelques problèmes techniques dont j'ai parlé. Et puis, on a eu quelques cas aussi de collègues qui ont répondu très tôt à notre sollicitation et puis arrivés au mois de février, n'étaient plus sûrs d'avoir répondu ou pas. Et donc, ils ont possiblement fait une seconde réponse. Le point, maintenant, j'entame la restitution formelle. Pour le projet FNSO Mirabel 2022. Donc, pour mémoire, ce projet FNSO a pour objectif de faciliter l'intégration des revues françaises au DOAJ. Donc, on a recueilli, mais de manière déconnectée des autres réponses, un certain nombre de titres de revues. C'était uniquement sur la base du volontariat. Les collègues pouvaient indiquer des titres de collection ou de revues pour lesquels ils travaillent afin qu'on fasse une comparaison avec la base de données Mirabel. On a identifié 339 publications en série, dont 319 revues, 5 collections et 15 publications où on vous avoue qu'on ne sait pas trop si ce sont des revues, des collections ou d'autres choses comme des carnets hypothèses ou des revues qui sont arrêtées. Enfin voilà, donc il y a des vérifications à faire. Et on a 48 publications en série qui ont été citées deux fois. Alors là, c'est en général pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est deux personnes d'une même université qui ont répondu et qui ne travaillent pas forcément, qui travaillent sur les mêmes contenus, mais pas forcément exactement dans le même service ou pour les mêmes opérations. On a recensé 11 revues non référencées dans Mirabel. Et donc, j'en profite pour vous dire que si vos contenus ne sont pas encore dans Mirabel pour les revues, vous êtes formellement invité. à faire les démarches soit auprès du copil Mirabel, et vous pouvez aller voir à la pause Armel qui est là-bas, et sinon en les contactant ou en voyant au sein de votre université si vous avez quelqu'un qui est en charge de s'occuper du référencement sur Mirabel. Les données maintenant, à chaque fois, on a conservé dans les graphiques deux types d'informations, les réponses incomplètes et les réponses complètes pour chaque question. Je ne vais pas présenter tout le formulaire, ne vous inquiétez pas. Seulement une toute petite partie des questions. Et on a à chaque fois recueilli des données qualitatives et des données quantitatives. Les données qualitatives, on est en train de les exploiter. En général, ce sont des champs commentaires où vous avez pu préciser vos réponses et apporter des compléments. On va très rapidement sur ce graphique. Vous voyez qu'on a encore une fois, on a une bonne composition qui représente bien la complémentarité de métiers de l'édition. Donc, il va être question dans les prochaines interventions, puisqu'on a des personnes qui travaillent dans des laboratoires de recherche, des plateformes de diffusion, des pôles éditoriaux, des presses universitaires, des bibliothèques, mais aussi des services d'appui à la recherche et d'autres services. Alors, en général, quand on va voir les réponses autres, on s'aperçoit que ce sont soit des fonctions de pilotage, coordination qui ne sont pas attachés à un service déjà cité, soit des gens qui ont des collègues qui sont dans des postes qui correspondent exactement aux affectations données dans les autres réponses, mais avec des appellations un petit peu différentes. Mais ça recoupe exactement en fait les mêmes réalités. Donc il y aura probablement un petit travail de clarification à faire. Et on a cinq réponses qui associent plusieurs équipes. C'est-à-dire que la personne a choisi de répondre pôle éditorial, mais il y a une pépinière dans le pôle, ou je travaille dans une pépinière, mais qui travaille avec des presses universitaires, et ainsi de suite. Pour les cas non cités, voilà, on a deux revues portées par une association, et puis l'INRAP, l'INHA, qui n'étaient pas, voilà, présents non plus. L'étape suivante, donc les différentes étapes assurées par les collègues qui ont répondu, on a une part importante de 100 réponses. Mais sinon, on a des personnes qui assurent en général tout ou partie de la chaîne de production des ouvrages. En général, quand les personnes ont répondu non, les quelques réponses où les collègues ont dit merci Annabelle, où les collègues ont répondu non sur les étapes assurées, ce sont des fonctions de pilotage, là aussi. Voilà. Les personnes qui ne prennent pas part à la chaîne éditoriale, mais qui ont simplement des fonctions de pilotage au sein d'un établissement. Vous avez vu, là encore, on a une bonne représentation de toutes les étapes de la chaîne de production. Il faut noter que dans les réponses autres, souvent, là encore, on a des collègues qui décrivent des réalités, des autres réponses, mais avec un autre vocabulaire. Donc, c'est probablement à réintégrer. Mais ça veut dire qu'on a aussi un effort à faire pour rappeler les mêmes réalités avec les mêmes mots, ce qui n'est pas encore le cas. La suite du questionnaire concernait les types de publications. On a là aussi une. Si on intègre, alors c'est pas, on n'a pas encore décidé, si on allait garder dans la restitution quantitative les réponses incomplètes ou pas. C'est la part orange à chaque fois. Ou si on va se concentrer sur les réponses complètes. Parce que ça fait varier un petit peu les choses. Les revues sont légèrement majoritaire, mais vous avez vu qu'on a quand même là encore une bonne représentation des différents types de contenus qu'on peut produire. Dans les autres productions, ont été cités des MOOC, des films, des DVD et parfois des catégories assez généralistes de type publication en ligne. Voilà. On ne sait pas trop ce que ça peut recouper comme activité exactement. Pour la signature des contrats, donc ça c'est la partie 2, c'est vraiment ce qui nous intéressait le plus, le côté cadre légal de l'édition. Faites-vous signer un contrat aux auteurs ou autrices? On a une soixantaine de réponses qui nous disent oui, affirmative, et on en a environ 25 qui disent non. Alors il faut tout de suite modérer ce chiffre au niveau quantitatif, parce que une même personne peut prendre en charge plusieurs contenus. Donc, 60 réponses oui ne signifie pas 60 revues ou 60 collections qui feront signer des contrats, mais probablement plus, puisqu'on a environ plus de 300 contenus identifiés et on a moins de 300 réponses. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément plus de contrats signés, en tout cas plus de contenus qui font signer des contrats. Pour le type de session, on a une majorité de sessions non exclusives et ensuite une part qui est quand même importante si on additionne les deux sessions exclusives. Donc si on additionne les deux colonnes sessions exclusives, donc soit pour toute la durée de la propriété intellectuelle, soit pour une durée limitée. Mais là encore, il faut probablement modérer puisque l'enquête concernait aussi bien les revues que les collections d'ouvrages, et en général, ce sont plutôt les collections d'ouvrages qui font des sessions exclusives à durée déterminée ou pour toute la durée de la propriété intellectuelle. La plupart des revues sont en session non exclusive. Pour les licences de réutilisation, nous avons une soixantaine de réponses positives. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est raccord le nombre de réponses pour les contrats, ce qui est plutôt rassurant parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas poser une licence si on ne demande pas l'autorisation à l'auteur d'apposer une licence sur son œuvre. Donc l'outil que nous avons dans l'édition, c'est le contrat pour demander à l'auteur d'apposer une licence sur son œuvre. Si nous avions un écart important entre les réponses signature de contrat et licence, là, il faudrait quand même s'inquiéter. En revanche, il y a une chose à signaler. Je vous renvoie à la déclaration de Budapest. Je vous rappelle que dans la définition de l'open access, il y a l'accès sans barrière mobile et économique, mais aussi l'indication claire d'une licence de réutilisation. Donc, quand une licence n'est pas indiquée, le contenu n'est pas considéré comme open access au sens strict. Ce qui veut dire qu'on a encore du travail. Pour les types de licences, vous voyez que la CC BY NC-ND est majoritaire. Probablement, là encore, il faut lier ça au type de publication. Et là, il va falloir qu'on aille dépouiller plus précisément les données pour voir si ce sont plutôt des revues ou des collections qui pratiquent cette licence-là à la place de CC BY. Pour les modèles de contrat, on a beaucoup moins. Vous avez qu'il y a un gros écart entre le nombre de personnes qui font signer des contrats, 60 réponses, et une quarantaine de réponses qui ont utilisé des modèles de contrat. Plutôt les modèles de contrat qui ont été produits par Medici et diffusés sur le site du COSO. Et dans les autres, parmi les quelques réponses autres, on a quelques réponses qui sont le SNE, Medici, mais sous d'autres appellations, et puis la Edres. Pour les modèles de contrat, on avait demandé s'ils avaient été validés par les services juridiques de chaque établissement. Et là, on a une très grosse diminution pour une quarantaine de modèles repris. On a à peine 20 validations par les services juridiques des établissements. Mais dans les commentaires, au niveau qualitatif, c'est assez intéressant le type de réponse qu'on a pu obtenir. La plupart des services juridiques s'estiment incompétents pour valider des contrats d'édition. Alors, soit incompétents, soit trouvent que l'enjeu est insignifiant pour l'établissement. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent que, voilà, comme ce n'est pas une convention de partenariat avec quelques centaines de milliers d'euros, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui veut dire qu'on a encore un effort à faire pour expliquer la responsabilité légale de l'éditeur et du directeur de publication et rappeler à nos chers présidents et présidentes que, en cas de propos qui tombent sous le coup de la loi, c'est eux et elles qui iront devant les tribunaux pour représenter ce qui s'est passé et assumer les conséquences. Pour les modèles de contrat, on avait donc demandé un niveau de satisfaction. Donc, on vous remercie d'avoir répondu à l'enquête et d'être principalement satisfait. Mais là encore, on a demandé un retour sur les points forts et les points faibles des contrats. Alors, parmi les difficultés, on nous a précisé qu'il y avait un vocabulaire qui, de temps en temps, était difficile. Alors, cette critique est alliée aussi avec d'autres échanges qu'on a pu avoir en marge des journées de ces derniers jours, de nécessité de proposer des définitions peut-être plus claires, un peu moins vagues sur des termes comme manuscrit, auteur accepté, où tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce que ça recouvre. Donc voilà, il y a probablement un effort là-dessus. Il y a des questions sur l'adaptation des contrats qui n'est pas toujours facile. Donc là, on a proposé des pistes pendant les ateliers de ces journées et on attend vos retours. Et puis, une autre chose, on nous dit qu'il faut quand même avoir des bases en propriété intellectuelle pour arriver à les appréhender. Alors là encore, on a fait des propositions dans les ateliers de ces journées Medici où on a essayé de vous montrer que dans les contrats, il y a du juridique, mais il y a avant tout une description de notre métier, c'est-à-dire d'une politique de publication et d'un processus éditorial. Et ça, la traduction en termes juridiques, c'est au juriste de la faire, mais la description de la réalité métier, c'est à nous de la faire. Et donc le contrat, c'est probablement un travail commun entre les éditeurs, éditrices et les juristes. Et puis pour les points forts, on a une exhaustivité, des commentaires qui sont dans le contrat et qui sont précieux, et puis une bonne modularité des différentes options, puisque ce sont des contrats à options. On a des collègues qui avaient accepté de déposer leur contrat, et donc on est en train de dépouiller article par article chaque contrat pour voir les différentes adaptations des modèles. On a noté quelques points d'attention sur lesquels il faudra probablement travailler. Premièrement, il y a des confusions sur l'article 30 de la loi pour une République numérique. Donc là, ça veut dire qu'on a encore un effort pédagogique à faire sur ce qui est concerné par cet article. Des précisions sur la distinction sans S, pour distinction, entre les réseaux sociaux et les archives ouvertes selon la licence choisie. Et puis, on a noté assez bizarrement des contrats qui, une fois adaptés par certains contenus, donnent moins de droits que la licence qui est au final apposée. Donc là, il faudra qu'on essaye de clarifier les adaptations parce qu'on ne peut pas, dans un contrat, retirer des droits et puis après, prendre une licence très très ouverte. Enfin, il y a une mise en cohérence à faire de tout cela. Et puis, de temps en temps, des petites modifications qui ont été faites à la marge qui restreignent beaucoup plus les droits que ce qui était proposé dans les modèles de contrat. Ça nous donne plusieurs perspectives de travail pour le GT. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir répondu à cette enquête et de nous donner du travail pour les années à venir. Parmi les trois chantiers, on va dire, il y en a un troisième qui est à rajouter. Il va y avoir un travail de clarification sur l'usage des licences Creative Commons, un guide pratique d'adaptation des modèles de contrat et probablement un glossaire pour essayer de proposer des définitions à la communauté et puis d'avoir des retours. Je vous remercie.